Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de lnh.com. Nicolas Duchamp au micro. Nous sommes le 5 novembre. Merci d'être à l'écoute pour ce nouvel épisode du podcast, bien évidemment, de la Ligue nationale de hockey, podcast officiel francophone. Hey, on perd pas de temps en commençant parce qu'il y en a un qui bougonne depuis tantôt chez lui, c'est Jean-François Chaumont. C'est JF!
Bon matin, messieurs.
Hey, Guillaume Lepage, salut Guillaume.
Salut! Il y en a un qui n'a pas pris son café ce matin.
Ben, écoute, d'après moi, il n'a pas juste pas pris son café. Il a déplugué de quoi? Il a craché de quoi dans la maison? Je ne sais pas, mais...
Non, j'ai mon café. C'est juste que j'habite entre deux écoles secondaires où il y a souvent des travaux. Et ce matin, c'en est un. Matinée de travaux à l'extérieur. J'entends de la machinerie. Et je sais pas si on a accroché un fil quelconque, mais je n'ai plus d'Internet à la maison. Puis en 2025, l'Internet, c'est quand même important, surtout si tu veux participer à un balado.
C'est ça.
Si tu veux chercher des statistiques, si tu veux te préparer moindrement, ce matin, c'est un gros zéro. Puis quand tu reçois, par contre, la facture mensuelle va quand même arriver. Si jamais ce n'est pas en raison des travaux, j'ai bon espoir de recevoir, c'est toujours le 15 du mois. Les prix augmentent d'année en année, mais quand il n'y a rien qui fonctionne, ça te rend de bonne humeur, tu ne peux pas travailler. Puis si tu essaies d'appeler, l'autre joie, c'est que tu as souvent un temps d'attente entre 20 et 4h15. Donc, j'ai pas le temps non plus d'attendre 4h15. Le balado commençait d'une minute à l'autre. Donc, heureusement que j'ai eu le temps de me couler un café parce que j'ai peu de sourires ce matin. Je vous le
confie. Tu me fais penser à Jim Carr qui est en présentement, comme on disait dans Slapshot. En plus, c'est le fun. Tu disais, Guillaume, avec la grève des transports en commun à Montréal. C'est parfait pour ceux de ta rue, GF, là, qui pensaient travailler de la maison ce matin. Les gars, on se lance aujourd'hui au balado. On perdra pas plus de temps parce que là, tu es sur tes données de téléphone cellulaire. Fait que tu veux pas tout brûler ça.
Ça, c'est le chèque, ça va direct à la Ligue.
Oui, c'est le chèque de la Ligue. Aujourd'hui, ça va coûter cher à la Ligue, GF.
Vous m'excuserez, ce n'est pas de ma faute.
On va arranger ça. Aujourd'hui, on va revenir sur le match d'hier des Canadiens contre les Flyers. Une soirée oubliée pour le tricot. Alors, on va aussi faire un petit peu le tour de ce qui se passe à travers la Ligue, quelques sujets de discussion. Et on va recevoir Philippe Boucher, qui va venir nous parler de la QV 2025 du Temple de la Renommée, qui va être intronisée en fin de semaine. Philippe, qui a joué avec quelques-uns des joueurs, presque tous, il a joué contre tous les joueurs ou avec certains joueurs qui étaient là à l'époque, donc qui va se joindre avec nous. Avant de commencer... Chers auditeurs, je vous invite, si vous écoutez sur le site de lnh.com, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Si vous voulez voir à quel point GF est en ce matin, ben on est sur YouTube maintenant en vidéo, donc vous allez le voir siroter son café en sacrant à l'intérieur de lui-même. Un autre qui devait sacrer un peu hier, c'est Martin Saint-Louis après 10 minutes de match hier contre le tricolore contre les Flyers. Très mauvais départ des Canadiens. Ça fait quelques fois qu'on a joué un petit peu avec le feu depuis le début de la saison et qu'on revient dans le match. C'était le cas à nouveau hier pour les Canadiens qui ont quand même été chercher un gros point. Son frère, les gars, on méritait pas plus hier après cette première période.
Non, pour reprendre une phrase chère à Martin Saint-Louis, il dit souvent « ça part avec la vérité ». Mais hier, en conférence de presse, Martin Saint-Louis a parlé avec beaucoup de franchise en disant « on récolte un point, mais la meilleure équipe a gagné et on méritait pas plus qu'un point. » Donc, Saint-Louis n'était pas heureux de l'attention aux détails dans ce match face aux Flyers. C'est quand même particulier parce que depuis le début de l'année, en 12 matchs, le CH avait donné 5 buts en première période. Hier, après 8 minutes, c'était déjà 3 buts pour les visiteurs, 3 buts pour les Flyers. Quand tu veux rebâtir la confiance d'un gardien, on parle d'un faux départ. Mais devant Samuel Montembeault, ça restait croche. Ça a été croche pour l'ensemble du match. La deuxième période, le talent du CH a parlé. Ivan Demidov sort une passe extraordinaire en avantage numérique. Lane Hudson qui danse encore une fois avec la rondelle, qui fige complètement le pauvre Jacob Gaucher qui jouait une première fois au Centre Bell, une première fois aussi contre Lane Hudson. Donc le talent a fait en sorte que ça a remonté à la surface. Les Canadiens ont pris les devants 4-3. Mais un but de Nikita Grebyshyn, son premier but de la Ligue nationale, crée l'égalité en troisième. Les Flyers se sauvent avec la victoire en tir de barrage. Mais depuis le début de l'année, tu le disais, Nick, ça arrivait souvent où cette équipe a joué avec le feu sans se brûler. Hier, c'était un mauvais match. On n'a pas été capable de s'en sortir avec une victoire. Mais si tu finis par avoir une absence dans ta structure, bien finalement, tu finis par en payer le prix. C'était le cas hier contre les Flyers.
Est-ce que chez les Canadiens, je regarde, si tu regardes le classement ce matin, on est deuxième dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est juste, ça fait partie de l'apprentissage pour une jeune équipe où là, on est peut-être un peu négatif, on était négatif hier chez les Tricolores dans le point de match, mais il va en avoir des comme ça, puis c'est normal pour une jeune équipe de passer à travers ça. C'est juste que ça fait plusieurs fois cette année. Là.
Bon, c'est ce que disait Martin Saint-Louis, là, c'est quand même sur 82 matchs, tu peux pas en jouer 82 parfaits. Mais tu sais, l'excuse de la jeune équipe, oui, c'est vrai, les chiffres parlent, c'est une jeune équipe, mais c'est une équipe qui a de l'expérience quand même. Le noyau de cette équipe-là a quand même plusieurs saisons d'expérience derrière la cravate. Donc, est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la jeunesse? Je pense pas. On est au Centre Bell, un endroit qu'on veut rendre difficile pour les adversaires. On soit une équipe qui joue pour 500 à peu près. C'est un adversaire prenable. Et là, dans les 8 premières minutes de jeu, on donne 3 buts. C'est certain, il faut souligner quand même les deuxième et troisième buts qui ont eu lieu sur l'avantage numérique. Dont 1 à 5 contre 3 pendant que Mike Matheson et Noah Dobson étaient au banc des punitions. C'est jamais très bon pour
l'infériorité numérique. Non, ça regarde mal, exactement, ouais.
Donc, tu sais, il faut remettre les choses un peu en contexte, mais somme toute, tu mets les punitions à part. Le Canadien était vraiment pas dans le coup en première période. C'était combien? C'était deux tirs au but. Puis je pense que là, on a réussi.
C'était 2 après une période.
Ouais, c'est ça. On a réussi à gonfler un peu là, le total vers la fin du match, là, mais on s'est longtemps. Ben, tu sais, on l'a gonflé jusqu'à 20, là, mais on a longtemps été autour des 12-13 ouais. tirs, puis on n'était pas capable, même en troisième, alors qu'on cherchait peut-être le but gagnant ou le cinquième but qui aurait fait mal aux Flyers. On n'était pas capable de générer quoi que ce soit offensivement. Donc, ça a été. Un mauvais début, mais aussi un mauvais match dans l'ensemble.
Puis t'en as glissé un mot, JF, mais c'est pas ce que tu veux offrir comme soirée quand t'as un gardien qui veut se relever comme Samuel Montembeault. Vous avez pensé de quoi de sa performance hier? Parce qu'il reste que, oui, il a donné 3 buts rapidement, quoi, 2 sur les 2 premiers tirs ou 2 sur les 3 premiers tirs, là. Mais si Samuel Montembeault est pas là en deuxième période, c'est un massacre ce match-là, là.
Moi, je reprends les paroles de Noah Dobson après le match qui disait clairement « Montembeault était le meilleur joueur de notre côté ». Donc, même si c'est une défaite de 5-4, même si c'est populaire d'hurler après le gardien du côté de Montréal, Samuel Montembeault a permis à cette équipe-là de s'accrocher. Il a fermé la porte après les 3 premiers buts en 8 minutes. Sur le but égalisateur, le 4e des Flyers, j'aimerais revoir une 8e fois la reprise, mais je suis pas convaincu qu'il voit bien la trajectoire de la rondelle. Si vous regardez la séquence aussi, le jeu défensif d'Arber Jacky est encore plus croche que le jeu de Samuel Montembeault. Jacky perd la rondelle à une reprise. Après ça, il y a une bataille à 1 contre 1 contre Travis Konecny. Perd sa bataille contre Konecny. La rondelle sort du territoire. Elle revient. Jacky est toujours coincé sur la glace. Honnêtement, il surveille personne. Guillaume disait à la blague sur la passerelle, je pense qu'il surveillait la bande. C'est probablement le cas. Il est complètement que la perdu bande sur ce jeu-là. Résultat, les Flyers marquent, créent l'égalité. Puis quand Martin Saint-Louis disait après le match, mais c'est les détails qui faisaient défaut, c'est la structure, c'est le cas. Chapitre des tirs, c'est 42 à 20. Les tirs tentés, c'est plus de 70 pour les Flyers, à peine 40 du côté de Montréal. Donc, tu sais, puis on a vu le plus bel exemple de la bipolarité chez les partisans quand un tir de Noah Cates à 92 pieds environ, Montembeault, évidemment, fait l'arrêt, puis les partisans l'applaudissent en dérision. Mais après, à mi-chemin en deuxième, en troisième période, ça criait « Monty, Monty, Monty » chaque fois qu'il sortait un arrêt important. Donc, c'était assez à l'image de ce début de saison aussi. On sent une impatience et une grogne envers Samuel Montembeault du côté des partisans, mais du côté de Martin Saint-Louis, du côté d'Éric Raymond, on veut continuer de travailler avec lui, question qu'il se relève. Puis Guillaume écrit sur Montembeault après le match, là, il était quand même encore une fois, très honnête devant un journaliste par rapport à sa sortie.
J'ai aimé la décision de Martin Saint-Louis de le garder devant le filet après le troisième but, parce que Saint-Louis le disait, c'est la décision la plus facile, c'est de retirer Samuel Montembeau après le troisième but pour essayer de fouetter les troupes ou quoi que ce soit. Mais là, si tu retires Montembeau avec le début de saison qu'il connaît, tu te retrouves avec une patate chaude pour le prochain match, pour la semaine à venir, parce que là, c'est
à quel moment est-ce qu'on redonne...
Exact. On redonne-tu une chance à Montembeau ou là, Dobesch, qui est invaincu encore, est-ce qu'on lui donne la charge de travail du numéro 1? Donc, Martin Saint-Louis s'est évité une catastrophe et Samuel Montembeau lui-même s'est évité de subir l'humiliation, entre guillemets, parce que là, à 3 buts, on l'applaudit de façon sarcastique. La pression est haute, les partisans sont mécontents. T'as Dobesch, tu sais, à un certain moment, je me suis demandé est-ce qu'on va se mettre à crier Dobesch, là, tu sais, c'était rendu près de ça. Mais il a été capable, puis ça, c'est quand même impressionnant, là, de faire un switch puis de revenir fort, même si, tu sais, les premiers arrêts, là, après les 3 premiers buts, c'était pas toujours évident, puis il cherchait la rondelle et tout
ça.
En deuxième période, là, c'est le plus solide qu'on l'a vu depuis le début de la saison, des arrêts, des déplacements bien exécutés et tout ça. Donc, la force mentale de Samuel Montembeau dans ce match-là est quand même quelque chose qu'il faut souligner, puis... Maintenant, est-ce que ça va lui permettre de se lancer dans cette saison-là, de trouver son air d'aller? Peut-être que c'est ce que ça lui prenait, là, de toucher les bas-fonds, puis finalement réussir à renverser la vapeur dans ce match-là. C'est 38 arrêts au total, je crois, 38 arrêts pour Samuel Montembeau. Donc, c'est sa première prestation solide après le début difficile. Donc, un autre point encourageant pour lui.
Puis, c'est quoi, c'est 31 arrêts consécutifs même, je pense, dans certains matchs. Ça, c'est un jeu blanc, là, fait que quand même, il faut signer. Tu sais, on pourrait croire que les gens de Montréal ont appris qu'à applaudir leur gardien de façon... de façon sarcastique, c'est pas une bonne idée. Un gardien québécois surtout, ça a juste laissé une cicatrice de 20 ans. Mais bon, il y en a qui ont pas compris. Les gars, vous faites quoi, les Devils du New Jersey? Match contre des Canadiens contre les Devils au New Jersey jeudi. Vous envoyez quel gardien?
Bon, je pense que la décision est déjà établie, là. Je n'ai pas la prétention d'être dans le secret des dieux, mais c'est Jakub Dobesch qui obtiendra le départ. On devait partager la semaine. T'offrais un deuxième départ d'affilée à Montembeau. C'était ça l'objectif. T'espérais qu'il en colle deux, qu'il le voir être relancé. Puis en même temps, tu pouvais vendre à Jakub Dobesch en lui disant, écoute, c'est absolument rien contre toi. Tu connais un super début de saison, fiche de 6-0. Mais techniquement, le match le plus difficile, c'est probablement celui contre les Devils. Donc, on te donne le match sur la route contre la plus grosse machine offensive. On te lance un défi à toi également. Sois juste patient. Tu auras 2 matchs où tu ne joueras pas. Donc, je comprenais le scénario écrit, composé par Éric Raymond et Martin Saint-Louis. Pour moi, Dobesch va être le gardien partant. J'ai hâte de voir, par contre, il pourrait y avoir un rappel aussi. Cette équipe-là est au minimum d'effectifs depuis quand même quelques jours, avec Patrick Laine qui est sur la passerelle de presse, Kaden Goulet qui est toujours blessé. Les deux sont blessés, Laine et Goulet. Il n'y a aucun extra. Donc, est-ce qu'on se tourne du côté du Rocket dans les prochaines heures? Logiquement, ça devrait être le cas. C'est rare que tu pars pour un match à l'étranger avec 12 attaquants et 6 défenseurs. Donc, il pourrait y avoir un petit rappel.
Tu rappellerais qui, toi?
Écoute, ça peut être... Tu rappelles un joueur pour essentiellement lui faire visiter une passerelle de presse à Newark.
Ah oui, en plus,
c'est techniquement pas un cadeau. La passerelle de presse à Newark est pratiquement à Manhattan, tellement que t'es loin de la glace. Donc, même sur la passerelle, ce n'est pas plus un cadeau. T'as pas un bon billet, mais un jeudi soir du côté de Newark, il pourrait toujours se faufiler, aller s'installer dans les gradins. Puis je pense qu'un Mark Delgazio de ce monde ne se ferait pas reconnaître non plus.
Il pourrait sortir aussi, aller se faire poser des ongles dans le coin de Newark, très populaire.
C'est exactement ce que j'allais dire. Si les rideaux de fer ne sont pas fermés, là, je ne sais pas à quelle heure on installe ça. Là, mais...
En plus, tu n'es pas avec ta propre voiture, fait qu'elle ne sera pas sur quatre
blocs de ciment. Le CH match d'art quand même du côté de Jersey City. Oh. Ceux qui ont la chance de dormir à Newark, généralement, les journalistes, les recruteurs d'équipes à plus bas revenus, par contre. je me suis déjà fait dire par un collègue, j'ai passé quelques jours dans la région de New York et je dormais à Newark puisque l'hôtel était beaucoup moins dispendieux. Puis un collègue qui m'avait dit « Oui, c'est beau, payer un peu moins, mais ta vie reste importante aussi. Tu as le droit de dormir à Manhattan. » Donc, ce n'est pas nécessairement le quartier le plus joyeux, celui de Newark.
Non, effectivement. Disons, là, tu prends le train de New York puis tu restes dans le train jusqu'au Prudential. Il passe à côté le train, donc c'est ça. Hey, les gars, je veux parler des succès du jeu de puissance des Canadiens depuis qu'Ivan Demidov a été installé sur l'avantage numérique. Alors, sur la première vague, c'est ce que je veux dire. C'est arrivé contre le match contre les Oilers. Depuis ce temps-là, le taux d'efficacité du jeu de puissance, c'est 54%. Encore hier, un but, une passe pour Demidov dans le match. À quel point est-ce qu'on peut tenir ça chez le tricolore? Mais à quel point, je veux dire, ce joueur-là, Demidov, a un potentiel offensif? Il me semble que chaque match, il est de plus en plus à l'aise puis il est de plus en plus en confiance.
Ouais, puis même en prolongation, hier, il est passé près de donner la victoire aux Canadiens. Mais sur l'avantage numérique, je me demande honnêtement qu'est-ce qui peut mettre fin à ces succès-là, parce que c'est une équipe qui est très, très dominante. Qui est capable de faire bouger la rondelle, qui donne plusieurs options. Là, on a Demidov d'un côté, on a Caulfield de l'autre, on a Hudson qui danse à la ligne bleue. C'est imprévisible. Donc, une équipe qui voudrait se préparer pour contrer l'attaque à 5 du Canadien, je veux dire, tu peux faire ton possible puis essayer de rester dans ta structure, mais cette unité-là est tellement créative que c'est difficile de mettre le doigt sur vraiment la solution pour freiner cette attaque à 5-là. Donc, pour moi, est-ce que ça peut se poursuivre? J'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que ça va se poursuivre à 53-55% d'efficacité? Ben là, ça, c'est une autre question. Mais pour le moment, là, je pense qu'on a trouvé une très bonne clé là, du côté des Canadiens.
Il y a les Devils, il y a les Mammouths qui s'amènent samedi au Centre Bell. Avez-vous un mauvais feeling pour le match de jeudi? On dirait que moi, j'ai un mauvais feeling dans le sens que tu sais, les Canadiens, cette année, oui, on a une bonne fiche, mais on a affronté beaucoup d'adversaires qui n'étaient pas des séries éliminatoires l'année dernière. Je regarde comment les Devils jouent présentement. Je ne suis pas sûr que j'ai un bon feeling. Je regarde comment le Mammouth joue présentement. Ça aussi, ça ne sera pas une marche dans le parc, comme on dit.
Ben, c'est l'histoire du mois de novembre aussi. Le calendrier en octobre était sur papier peut-être favorable, mais à un moment donné, tu as le retour du balancier. Tu ne peux pas toujours avoir des confrontations plus faciles. Est-ce que tu as un mauvais feeling? Honnêtement, j'essaie d'avoir le moins de sentiments possible. Je vais sonner plate, là, mais Martin Saint-Louis disait cette semaine...
J'essaie il était d'avoir le moins de sentiments possible.
Ben oui, mais déjà que j'ai pas d'Internet, ma vie est en train de s'écrouler.
Feeling, là. C'était Richard Cochente, t'es un vrai Richard Cochente,
c'est ça?
Je m'en vais vérifier.
Je te le donne. J'ai la playlist de Richard Cochente n'est malheureusement pas sur mon téléphone. Puis même si je voulais te la faire jouer, j'aurais de la misère aujourd'hui.
Fabienne Thibault et Richard Cochente. Je connais mes succès des années 80. Là.
Exact. Oh non, Nick, tu peux arrêter.
Internet vient de relâcher après ça.
Exact,
ça vient de se terminer. Là. Il a le doigt sur
le
bouton de son cellulaire là, pour couper ça.
C'est le collègue Dave Lévesque du Journal de Montréal cette semaine qui a posé comme question à Martin lundi. Martin Saint-Louis, est-ce que tu commences à être agacé par les troisièmes périodes, le fait que vous ne réussissez pas à garder les avances? Puis Saint-Louis avait dit, ben, j'aimerais mieux qu'on réussisse à garder notre avance, à ne pas voir les rivaux revenir dans le match. Mais il dit, agacé, c'est un grand mot, parce qu'il dit, j'ai comme philosophie de garder le verre à moitié plein. Puis il dit, en ce moment, bien, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes, parce que oui, on peut donner beaucoup de buts en troisième période, mais on obtient quand même le résultat. Puis il dit, pour un coach, c'est important quand tu as le résultat, mais tu peux également faire de l'enseignement. Si je retourne au match contre les Flyers, en matière d'enseignement, Martin peut concocter quelques chapitres. C'en est un qui est, il est exigeant comme coach, il est travaillant également. Donc, je crois qu'on va rapidement revenir à la table à dessin. Puis cette équipe-là a quand même un très, très bon départ. Là. 9-3-1, c'est loin d'être catastrophique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse? Ça pourrait être le cas, une baisse de régime, Mais oui, les rivaux vont être un petit peu plus difficiles dans les prochains jours, les prochaines semaines.
Ouais, j'ai hâte de voir.
Là, on parle de cette semaine, mais tu regardes ce qui s'en vient après. Les Kings, les Stars. La semaine suivante, c'est les Capitals, les Maple Leafs, le Mammouth encore. Après ça, on part dans l'Ouest avec les Golden Knights, l'Avalanche.
Vegas, c'est pas facile non plus. Là.
Mm-hmm. Fait que c'est peut-être plus, là qu'on va voir de quel bois se chauffe véritablement cette équipe-là. Mais de là à dire que j'ai un mauvais feeling, pas vraiment. Je pense que mine de rien, bon, c'était des adversaires plus faciles. On a gagné quand on a trouvé le moyen quand même de gagner ces matchs-là. Puis, en même temps, on a gonflé notre ballon de confiance. Donc, c'est une équipe qui est... Tu sais, quand t'as la confiance, là, des matchs comme hier où t'es pas dans le coup, ben ils ont quand même passé proche de s'en tirer. Puis le talent a parlé en deuxième période, tout ça. Donc, je pense pas qu'on est rendu à dire qu'on a un mauvais feeling, là, mais ça va être des vrais tests, puis c'est là qu'on va voir quel est le vrai visage du Canadien.
Mais en même temps, si tu réussis à passer les tests et à connaître un bon mois de novembre, question de gonfler une confiance, ça peut être très positif pour l'équipe. Souvenez-vous, l'an dernier, là, pour le voyage du temps des fêtes, historiquement, le CH est très, très, très souvent en Floride. Il y avait les Panthers, le Lightning. Ensuite, ils partaient du côté, je ne sais pas si c'est le bon ordre, là, mais il y avait Vegas, Denver, Chicago. Puis on prédisait pratiquement la fin du monde pour le tricolore. Mais résultat, victoire en Floride, victoire à Tampa. Ils réussissent également à sortir avec des points du côté de Denver, du côté de Vegas. Puis le seul match qu'ils avaient échappé, c'était contre les Blackhawks, qui était de loin l'équipe faible. Mais après ce voyage-là, le tricolore avait montré un visage différent jusqu'à la fin de l'année. Ça avait vraiment donné là, comme un second, même pas un second souffle, parce qu'il n'y avait pas de souffle avant ce moment-là. Le CH était très, très, très bas au classement. Ça avait permis à l'équipe de se relancer drôlement.
Ouais, c'était pas un second souffle, c'était une manœuvre de réanimation cardiaque à ce moment-là. Puis c'est vrai, puis c'est intéressant parce que c'est vrai, ce match-là contre les Blackhawks, on l'avait échappé, alors que là, on vient d'aller chercher ces points-là, entre guillemets, faciles contre en début de saison. Personne ne va pouvoir enlever ces points-là que les tricolores est allé chercher. Fait que si tu en échappes un de plus ici et là sur la route contre un bon adversaire, ben écoute, tu as toujours bien cette petite réserve-là que tu t'es fait. J'ai hâte de voir aussi le Mammouth. On a eu André Tourigny en entrevue la semaine dernière, puis je trouve que c'est une équipe qui est le fun à regarder. J'ai hâte de les voir de proche. Comme on disait avec André, vu qu'ils sont dans l'Ouest puis tout ça, on les voit un peu moins à l'œuvre, mais j'ai regardé quelques matchs du Mammouth, puis ça va être... c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui a un peu le même parcours que les Canadiens, donc ça va être à suivre. Les gars, vous êtes allés, avant le match hier, vous êtes allés dans le vestiaire des Flyers pour discuter de la vie à Philadelphie avec l'arrivée de Rick Tocchet. C'est une équipe qui tente de trouver un rythme. On le sait, c'est une reconstruction plus ou moins avoué là, du côté de Daniel Brière. Mais on a fait une grosse décision cet été quand on a été chercher Trevor Zegras des Ducks d'Anaheim. Il n'a pas coûté cher. Puis Guillaume, jusqu'à présent, là, c'est une belle acquisition. Ça commence à... C'est payant là, pour l'instant. Là.
Ben, les gens qui ont écouté le match hier ont vu un Trevor Zegras...
Nouveau.
Nouveau. Un peu le Trevor Zegras qu'on voyait à ses premières années avec les Ducks d'Anaheim. Un joueur qui est créatif, qui a pris le contrôle de certaines séquences en prolongation. Il a eu le contrôle de la rondelle assez souvent. On a vu sa feinte en tir de barrage. Sur les joueurs qui ont au moins 20 tentatives dans l'histoire de la Ligue, c'est lui le meneur avec un taux d'efficacité de 65% là, en tir de barrage. Donc, c'est un joueur qui... Tu sais, on le savait, là, c'est un joueur talentueux qui est capable de faire la différence. Il le fait dans les niveaux inférieurs. Mais là, avec les Ducks, les deux dernières saisons, ça a été plus compliqué. Puis depuis son arrivée avec les Flyers, ça se passe très bien. Mène l'équipe avec 4 buts, 15 points en 13 rencontres. Donc, on est très contents. Je parlais avec Sean Couturier. Il dit c'est un joueur qui arrive toujours à l'aréna avec le sourire, qui s'intègre bien dans l'équipe. Rick Tocchet disait c'est un joueur qui écoute. T'sais, il écoute les consignes, il joue dans le système. Et hier, on a sorti, je pense, c'était à RDS en début de saison, une déclaration de Rick Tocchet qui avait dit à Zegras, est-ce que tu veux être une vedette des réseaux sociaux ou tu veux gagner des matchs de hockey? Puis je pense que, tu sais, avec la maturité, il y a 24 ans, c'est pas très vieux, mais quand même déjà plusieurs saisons d'expérience. Peut-être qu'à un moment donné, il en est venu à réaliser que Pour connaître du succès dans la Ligue nationale, c'est pas en faisant des buts Michigan et toutes ces choses-là que ça va arriver. Si je veux connaître du succès, ça va être parce que je vais travailler puis que je vais jouer en équipe. Puis de la façon dont Rick Tocchet parle, je pense pas que c'est le genre de coach qui laisse beaucoup de jeu à ses joueurs Exactement. En termes d'effort puis de travail. Là. Si ça fait pas son affaire, je pense que c'est un coach qui est assez strict là-dessus. Là. C'est vraiment... Son plan est clair, puis je pense que ça aide Trevor Zegras justement à évoluer dans ces balises-là. Puis on a l'impression aussi qu'on laisse être la personne qu'il est. Là. Tu sais, Zegras, à son arrivée dans la Ligue, c'est un gars qui est flamboyant, c'est un gars qui aime blaguer avec les médias. On voit les scènes en coulisses avec ses coéquipiers. Tu sais, il a l'air d'être le gars qui joue le bouffon un peu là, dans le vestiaire. Puis je pense qu'on laisse être cette personne-là tant qu'il travaille sur la patinoire. Puis ça, en ce moment, ça semble être un mélange qui lui convient parfaitement à Philadelphie.
Peut-être là qu'il y avait un clash avec c'est Craig Cronin là, du côté de d'Anaheim, qui est quand même un tough. Au deuxième étage aussi, Pat Verbeek, Daniel Brière, deux gars assez différents au niveau du côté relax, si je peux dire de ça. Mais penses-tu que ça va tenir du côté de Zegras? Est-ce que quand tu regardes, tu sais, c'est le fun, c'est un beau départ, mais... Quand tu regardes le joueur, est-ce que justement c'est la clé pour que ça tienne? Ça va continuer à être Rick Tocchet qui sert la vis de temps en temps?
Ben, il me disait, tu sais, ce qu'il a appris, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Puis il dit, autrefois, par le passé, peut-être quand j'avais des bons départs, ben, je me mettais tout de suite à m'emballer puis à voir plus loin puis à me dire que j'allais connaître une grande saison parce que ça avait bien fonctionné sur 10-15 matchs. Là, il dit « J'ai assez d'expérience pour comprendre qu'il va avoir aussi des bas dans la saison, mais il y a cette compréhension-là peut-être qui est capable de surfer, il disait, la vague du milieu. Là. Pas aller trop bas. Là, rester vraiment stable dans ses émotions. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Il dit qu'il l'a appris. On va voir cette année. On va en avoir la preuve, mais pour l'instant, là, ça fonctionne bien. Puis je pense que pour un joueur comme ça, ça prend un entraîneur qui est justement capable de mettre des balises claires sans l'étouffer, tu sais, comme joueur. Parce que à Anaheim, c'est un peu ça qu'on avait l'impression qui est en train de se passer. Là. Trevor Zegras n'était pas le Trevor Zegras qu'on connaissait à ses débuts. Donc, ce changement d'air-là, en tout cas pour le moment, ça lui fait le plus grand bien. Puis on va voir pour la suite de la saison si ça se poursuit.
Puis on parle quand même d'un joueur qui avait deux saisons, qui a déjà connu deux saisons de 60 points et plus à un très jeune âge avec les Ducks. Les deux dernières années, ça a été très difficile. Des blessures, manque de production, quoi, mésentente également avec son entraîneur. Puis ce qui est quand même paradoxal, c'est que Zegras part au même moment qu'il y a un changement d'entraîneur du côté des Ducks. Donc on n'a même pas voulu essayer de le relancer avec une nouvelle voix, comme avec Joel Quenneville. Écoute, c'est Daniel Brière qui doit s'en frotter les mains. C'est une bonne acquisition. Puis, tu sais, il l'entoure également de bons vétérans. Christian Dvorak, hier soir, du côté de Montréal, était son joueur de centre. Dvorak a travaillé pendant 4 saisons avec Cole Caulfield. Cole Caulfield est pas mal un des meilleurs amis de Trevor Zegras. Probablement qu'il lui avait glissé quelques mots à Dvorak au sujet de Zegras, comme quoi si tu peux l'aider, peu importe. Mais la cohésion jusqu'à présent, puis tu sais, Rick Tocchet, quand il te parle, là, tu as intérêt à l'écouter. Là. C'est pas le type de gars, tu répliques pas trop vite avec Rick Tocchet, puis tu piles pas sur son gros orteil. Et quand il te lance un message, ça doit quand même peser assez lourd. Là.
Écoutez, quand même, Ryan Poehling, un choix de 2e ronde et un choix de 4e ronde jusqu'à présent. Là, coup de circuit pour Daniel Brière. On va voir si ça va se poursuivre. Je ne sais pas si vous avez parlé avec des collègues de Philadelphie hier ou tout ça, mais est-ce qu'on est un peu inquiet par rapport au début de saison de Matvei Michkov? Pas de points dans les deux derniers matchs. 6 en 13 matchs jusqu'à présent cette saison avec juste un but. Est-ce que c'est la gang la deuxième année pour Michkov après une belle première saison?
Mais si ma mémoire est bonne, Michkov a eu un accident de voiture aussi au cours de l'été du côté de la Russie. Selon ce qu'on entend des collègues de Philadelphie, n'est pas arrivé dans la forme physique optimale au camp des Flyers. Puis contre le CH, il y a un moment dans le match où mon voisin, qui est très grand sur la passerelle de presse, Guillaume Lepage, m'a tapé pour me dire, il joue, lui, en parlant du numéro 39, Mishkov.
Ça, on était en troisième période, je pense.
Ouais, c'était pas une grande sortie. Je l'ai pas trouvé très, très rapide hier, pas très explosif. Mais écoute, l'an dernier, il a connu une très, très bonne saison. Ça peut être un joueur qui, lui, vit l'effet inverse que Trevor Zegras. S'il y a une lune de miel en ce moment entre Tocchet et Zegras, pas convaincu qu'il y a une lune de miel identique entre Tocchet et Mishkov. Probablement qu'il veut serrer la vis puis le voir jouer selon les demandes des Flyers, les demandes de Rick Tocchet. On verra pour Matvei Mishkov. Mais il traînait aussi une réputation d'un caractère quand même assez lourd avant son repêchage. Donc, ça peut suivre aussi. Ça traverse une frontière généralement.
Eh oui, puis écoute, si Mishkov n'aimait pas le style de John Tortorella, ça n'a pas beaucoup changé avec Rick Tocchet. Peut-être un petit peu plus diplomate, mais devant les médias. Mais pour le reste, c'est la même pointe de fer.
Il faut quand même souligner, ben, tu sais, hier, c'est peut-être anecdotique, là, mais avant le début de l'entraînement des Flyers, Rick Tocchet était dans un coin de la patinoire avec Matvei Mishkov puis faisait de l'enseignement sur le positionnement de son bâton et tout ça. Donc, tu sais, je pense pas qu'on est au point de dire que Rick Tocchet l'a mis dans un coin puis l'a mis en position. Non, là, il travaille quand même avec Mishkov de ce qu'on a pu voir hier. Là. Donc, est-ce que ça va débloquer? Peut-être c'est une question de, justement, conditionnement physique, de retrouver un peu la forme, puis après ça, le reste va suivre. Mais hier, c'est vrai que ça a été un match plutôt discret pour Mishkov.
On change totalement de sujet, messieurs. C'est ce week-end que va avoir lieu l'intronisation de la QV 2025 du Temple de la renommée du hockey. Donc, belle QV quand même, Alexander Mogheni qui va enfin faire son entrée après avoir attendu quand même longtemps. On va aussi avoir Joe Thornton, Zdeno Chara, Duncan Keith chez les joueuses, Jennifer Botterill, Brianna Decker qui fait son entrée aussi, chez les bâtisseurs, Daniel Sauvageau qui va être là et aussi Jack Parker qui a dirigé l'Université de Boston pendant 40 ans. GF aussi qui va être là, qui va écrire quelques textes pour LNH.com. Je voulais qu'on ait quelqu'un aujourd'hui à l'émission qui pourrait nous parler un peu de c'était quoi affronter ces quatre joueurs-là dans la Ligue nationale de hockey. Philippe Boucher, que vous connaissez, a une chronique sur le site web de LNH.com, a affronté ces joueurs-là au cours de sa carrière, entre autres avec les Kings, les Sabres de Buffalo, les Stars de Dallas, Pittsburgh, aussi les Pingouins. Donc, il était gentil, s'est joint à nous aujourd'hui pour parler de tout ça. Donc, on vous présente l'entrevue qu'on a réalisée avec lui un petit peu plus tôt en journée. Philippe, c'était quoi? Toi, tu venais de faire ton arrivée dans la Ligue nationale de hockey. Il y avait une bébite à Buffalo qui s'appelait Alexander Mogheni. Ouais. C'était quoi de jouer avec ce joueur-là qui arrivait de l'URSS, qui avait un parcours tellement différent de toi que tu avais eu avec les Bisons de Grimby, par exemple? C'était pas du tout la même chose. C'était quoi de jouer avec Alexander Mogheni?
Ben, c'était spécial. Mon premier camp d'entraînement, j'étais impressionné partout. Le Pat Lafontaine était là, Pierre Turgeon était là. Il y avait énormément de gros joueurs. C'était la première expérience dans un environnement comme ça. Les camps d'entraînement, il faut se souvenir, dans ce temps-là, tu avais quatre équipes, ça durait à peu près un mois. J'avais fait quelques semaines ma première année. Ce que je me souviens plus, c'est mon deuxième camp. À 19 ans, quand j'ai fait mon camp d'entraînement, j'ai réussi à percer l'alignement sous les ordres de John Mockler. John Mockler nous avait dit, c'est pas compliqué, on a un but, on va être l'équipe la plus en forme, mais que la saison commence. Fait qu'on avait... L'année d'avant, on avait, avec Rick Dudley, on faisait déjà de la pliométrie quand ça n'existait pas. On était vissé au plancher, on sautait. Rick Dudley avait fait les box. Puis Mogheni, ben, c'était peut-être pas le gars le plus en forme. Fait que la deuxième année avec John Mockler, je me souviens, on faisait des 15 tours, 4 fois 15 tours aux deux jours. Puis les gars étaient obligés de le pousser avec le bâton pour qu'il réussisse à finir. Puis les gars étaient fâchés parce que tout le monde voyait son talent naturel, ses habiletés. C'était une bonne personne, là. Mais tu sais, là, on va se dire, moi aussi, j'avais de la misère à finir les 15 tours. C'est pas dans le temps que les joueurs s'entraînaient plus. Mais il faut se souvenir, si on va du début de la saison où il avait de la misère à faire ses 15 tours ou que les vétérans de l'équipe étaient un peu fâchés après lui, ben, il a marqué 76 buts cette année-là, l'année que lui et Timo Selanne ont réussi à marquer 76 buts. Puis c'était impressionnant, là. Tu voyais Pat Lafontaine patiner les patins larges, un petit revers sur à Mogheni qui était off-wing. Puis Mogheni avait toujours le no-look, là. Il regardait, ben, il est gaucher, il regardait dans les estrades, l'ensemble des deux jambes du gardien de but. On a vu ça à peu près 60 fois dans l'année, puis 16 buts marqués d'une autre façon. Mais c'était c'était vraiment là, spécial à voir. C'était tout un joueur de hockey.
Quand tu vois ça, à quel point tu es heureux de ne pas jouer contre ce duo-là?
J'ai ben des pratiques, c'est difficile pour moi. Là, je voulais regagner ma place dans l'alignement. À 19 ans, je ne jouais pas tous les soirs. Souvent, dans les pratiques, j'avais affaire à être contre eux, à être le gars qui tuait des punitions. On n'utilisait pas les vétérans pour tuer des punitions dans les pratiques. Fait que juste de pratiquer avec eux, c'était déjà difficile. Puis ils ont été très, très dominants. Là. Pat Lafontaine est un grand leader avec les sortes de Buffalo. Mogini, un marqueur naturel. Là. Il y a toujours eu des hauts et des bas dans le nombre de marqueurs de buts. Les gars se rendaient à 50. C'est de plus en plus difficile de se rendre à 50. Puis dans le temps, c'était à peu près ça la marque. Cette année-là, là, de voir la compétition entre lui et Solani s'en aller. À moi, je me trompe, les deux ont marqué 76 buts cette année-là. Puis c'était quelque chose à voir. Là.
C'était comment aussi? Il y avait, je sais pas si ça tient de la légende ou de la réalité, là, mais Mogilny apparemment avait une peur bleue de l'avion.
Ouais.
Est-ce qu'il vous suivait après les matchs ou il conduisait comme Pateki dans un collègue journaliste d'une ville à l'autre?
Écoute, c'est vrai, là, honnêtement. Puis c'était toujours, là, l'équipe n'existe plus, malheureusement. Là. Entre Hartford et Buffalo, je peux pas te dire quoi c'était. Quoi. C'était Niagara Air. C'était pas la meilleure airline qu'il y avait. En passant, Pierre Lacroix a pris ça une fois à Québec, comme on dit, avec les Nordiques, puis ils l'ont mis dehors, puis sont allés avec Air Canada. Mais bon, nous, c'est ce qu'on avait à dealer, là, avec...
Ça ressemblait avec à l'avion des Indians dans Major League, là, avec le duct tape des hélices, là.
Il avait pas embarqué cette fois-là, là. Honnêtement, qu'est-ce qu'il faisait, là? John Tortorella avait de la misère. Puis John Tortorella était assistant coach dans ce temps-là, restait dehors, même s'il faisait moins 20, il attendait jusqu'à ce qu'on ferme la porte. Puis souvent, Mogilny venait mettre sa valise. Surtout pour ce voyage-là, là, pas sûr qu'on partait de Buffalo, mettons, pour aller à Los Angeles. Mais ça, via la route, c'était peut-être un 5-6 heures. Là. Lui, il arrivait, il mettait sa valise, j'allais voir les pilotes, posait 2-3 questions. S'il n'était pas à l'aise, il prenait sa valise, j'allais voir John Mutler, puis il disait « on va se voir demain ». C'était comme ça que ça fonctionnait. Il a fait ça longtemps. J'ai joué avec quelques joueurs. Mais un de ces vols-là que Mogilny a décidé de prendre une limousine ou un chauffeur pour se rendre à Hartford, moi, j'ai vu des hommes matures, des gars que je respectais énormément, que je respecte encore, pleurer, penser qu'ils ne reverraient pas leur famille. Fait que ça brassait vraiment, de la misère à l'expliquer. C'est peut-être Mogilny le plus intelligent de la gang de s'en aller se promener en auto parce que c'était pas toujours la fun.
Mogilny, ben justement, il sera pas là en fin de semaine. Mogilny va faire ça à distance. Je ne sais pas si c'est lié avec l'avion, là, mais on a parlé de Mogilny qui était un peu une petite bébite. Dano oui. Chara, c'était une méchante bébite, une très grosse bébite. Quand tu as vu ce joueur-là arriver dans la Ligue nationale à 6 pieds 9, c'était un record ou à peu près quand il est arrivé, tu l'affrontais, tu arrivais contre ce joueur-là. Est-ce que tu te souviens de lui à ses débuts puis ce qui est devenu comme joueur, cette progression-là de sa part, c'est incroyable pour un gars qui...
Ouais.
Pas il avait le physique de l'emploi pour l'époque, mais en même temps, il a pas tant le physique de joueur de hockey en le sens que son centre de gravité est tellement élevé que c'est un exploit pour lui d'être au temple de renommée.
Ben moi, je me trompe, ça va être les Islanders ou qui a commencé. Puis on est dans les mêmes années. Là, tous les gars qui sont nommés là, au temple de la renommée et qui le méritent amplement, là, c'est les joueurs de la Ligue nationale, je parle. Ben, c'est vraiment des joueurs qui sont arrivés pas mal en même temps que moi. Chez les Islanders, c'est plus difficile. Tu sais, ça me rappelle que j'ai coaché dans l'hockey mineur au Québec. Je ne veux pas me lancer dans un débat comme ça, là, mais on a déjà produit plus de joueurs parce qu'on n'est pas patient avec les grands joueurs, des joueurs qui sont, tu sais, on aime les petits joueurs à Tom Peewee, Bantam, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire leur chemin. Il y en a quelques-uns dans ce temps-là qui s'en allaient vers la Ligue nationale. On en voit de plus en plus des grands bonhommes dans la Ligue nationale pour avoir de plus en plus de petits bonhommes. Là, tu sais, c'est des joueurs de talent qui se rendent dans la Ligue nationale, mais lui, c'était vraiment unique, puis c'était awkward un petit peu quand il est rentré dans la Ligue nationale. Je pense qu'on aura toujours là. Regretter de l'avoir laissé aller à Ottawa. À Ottawa, moi, ce que je me souviens le plus, c'est que ça brassait pas mal. On était avec les Kings, puis on est sur la glace. Puis c'est évident que les cinq gars, il va se passer quelque chose. Puis je vais toujours remercier Yann Laperrière d'être venu devant moi, puis m'a regardé, puis il dit que là, je vais m'occuper de Chara, tu peux en prendre un autre. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça parce qu'il était tellement tough, honnêtement. Puis tu sais, on connaît son parcours. Là. Après, on a appris à le connaître. Là. C'est un freak de l'entraînement. Il est encore aussi en forme aujourd'hui, probablement.
Il
jouait dans le temps. Il garde. C'est incroyable son leadership, le joueur qui est devenu, sa dominance. Tu sais, quand moi, j'étais dans l'hockey mineur, je l'utilisais pas comme exemple. Quand j'étais coach ou dans le junior majeur, je l'utilisais pas comme exemple parce que les jeunes ne le connaissaient peut-être pas. Mais comment utiliser son bâton, comment prendre l'espace, enlever l'espace à des joueurs, c'était pas le fun. Moi, j'avais pas vraiment à aller devant le filet avec lui, là, mais ça devait pas être le fun. Puis Je vais toujours lui en vouloir. Mon seul match des étoiles en 2007, j'ai pas été capable de lancer plus fort que lui parce qu'il m'a dit de quoi il y avait, un, il y avait beaucoup de poids à mettre en arrière de la rondelle, puis il y avait un bâton à peu près 140 flex qui pliait pas, là, puis c'était, tu sais, il y a amené cet élément-là d'un joueur très awkward, même à regarder, à ses débuts de les Islanders. C'est peut-être pour ça qu'on a abandonné celui. Il est devenu un joueur très, très dominant, en désavantage numérique contre les meilleurs trios. Puis aussi en avantage numérique, c'est un joueur qui s'est développé un côté offensif là, plus tard dans sa carrière.
Ça va avoir été un des quelques mauvais échanges de Mike Bilberry à l'époque. Une autre équipe qui a peut-être fait un mauvais échange, c'est John Thornton, lorsqu'on l'a échangé avec les Sharks de San Jose. À vrai dire, Thornton est parti tout juste avant que Chara arrive. Peut-être que si on avait gardé Thornton à l'époque, écoutez, j'ose pas imaginer avec toutes les années qui ont suivi l'arrivée de Patrice Bergeron et tout ça.
Ouais.
Mais Thornton, comme défenseur, c'était comment de l'affronter? Parce qu'on sait à quel point c'est un grand passeur. Tu te préparais comment pour affronter Joe Thornton?
Ben, je vais te parler de patience avec Chara. On n'a pas eu avec lui, on n'a vraiment pas eu. Là. C'est un gros bonhomme. Beaucoup de pression sur Slavkovski depuis qu'il était à Montréal. Pis on sait pas. Bon, prenez votre temps. Là. C'est un bon joueur. C'est un gros bonhomme. Puis plus que ces joueurs-là, là, je ne fais pas une comparaison directe entre les deux, mais plus que ces joueurs-là jouent avec des meilleurs joueurs, plus qu'eux vont être meilleurs, vont rendre les autres meilleurs. Puis Thornton, tu sais, c'était pas, là, il arrivait un contre trois, là, t'avais pas peur de te faire contourner, là, mon gap, j'avais pas de problème. Je reculais contre plusieurs. Exemple, Mogilny, en bedaine pratique, je reculais puis il me contournait comme un contre journaliste. Thornton, c'était pas ça, sa force, c'était sa vision. Protéger la rondelle, t'étais pas capable d'y enlever. Puis non seulement capable d'y enlever, mais pendant qu'il t'amenait d'un côté, il pouvait faire un jeu à l'aveuglette pour que tu semblais à l'aveuglette, mais lui, c'était toujours des passes tape, mille quelques assises dans la Ligue nationale. Tout ce qui lui manque, tu sais, moi, j'ai joué contre lui longtemps avec les Kings. Quand je me suis en allé à Dallas, on avait une bonne équipe.
Ouais, c'est ça.
On a eu des équipes qui ont compétitionné. Malheureusement, on n'a pas gagné. Mais année après année, les Sharks étaient là. Tout ce qui manque à Thornton, Marlowe et compagnie qui étaient là, ça a été une Coupe Stanley parce que ça a été une des équipes les plus dominantes qu'il n'y a pas eu. Puis moi, ça a été mon building. Le Shark Tank, à vie, c'est mon building favori. Parce que toutes les fois que moi, je suis allé là, il y avait une très bonne équipe. Puis ça commençait souvent par Joe Thornton.
OK, parce que tu savais que ça allait être une bonne game.
Ah, oh, mais ils ont toujours une bonne. Moi, quand j'étais dans la Ligue nationale, les années de Marlowe et Thornton, ils étaient compétitifs à chaque année. Ça patinait, il y avait de l'ambiance, c'était le fun à regarder. Fallait que tu te prépares. Tu sais, moi, je vois des avantages numériques. Là. C'était complexe à se préparer pour un... On voit ce qu'un bon avantage numérique peut faire à Montréal. Là. On peut le voir cette année. Bien, là-bas, c'était année après année après année. On avait des joueurs dominants. Puis la rondelle, les avantages numériques, la rondelle se promène d'un côté à l'autre de nos jours. Mais dans ce temps-là, la rondelle était pas mal tout le temps sur le half-wall de son côté. Puis c'est un joueur unique. Là.
As-tu eu la chance, Philippe, de le connaître un peu? T'sais, point de vue personnalité, c'en est un qui a de l'air à sortir du lot. Là. Il a un bon sens de l'humour. Je me souviens de ses entrevues dans le vestiaire. Il restait toujours en bédaine. Là. Il ne mettait jamais de chandail en disant « Quand tu as un aussi beau corps, ben regarde, tu n'as pas peur puis tu le montres. » As-tu eu la chance de le connaître un petit peu? Ou?
Pas tant, honnêtement. Donner la main à quelques reprises. Beaucoup d'histoires de gars qui ont joué avec, comment ils l'appréciaient, comment c'est une bonne personne. Beaucoup de... Puis avec le temps, j'ai quitté la Ligue nationale avant lui un petit peu. Avec le temps aussi, voir comment les jeunes de l'organisation des Sharks l'apprécient puis qui est encore impliqué dans le hockey puis combien de temps, tu sais, il est en amour avec le hockey, là. Il a joué longtemps, il a tiré sa carrière, il est allé un petit peu partout. Mais non, personnellement, j'ai pas d'histoire à raconter là, avec lui, là, mais j'en ai entendu plusieurs comme toi, là.
Good. Hey, Philippe, merci d'avoir eu ce petit arrêt ce matin, mais on voulait vraiment ta vision. Ben, c'est toi, genre, Duncan Keith, je pense que tu as peut-être moins de liens un peu, là, à moins que tu aies une.
Ben, moi, c'est un joueur dominant. Les Blackhawks ont été dominants. Est-ce que c'est une dynastie? C'est de plus en plus difficile d'avoir des dynasties dans la Ligue nationale, mais on n'était pas loin avec Kane, Taze, puis Seabrook. On ne peut pas séparer lui de Seabrook, honnêtement, mais c'est un peu comme un Scott Niedermeyer. Moi, c'est un peu plus dans mon temps, mais des joueurs, à leur arrivée dans la Ligue nationale, sont dominants offensivement, défensivement, des gars qui peuvent jouer 27-28 minutes. Alors, par match, c'est amplement mérité de son côté aussi. Là.
Écoute, on peut lire ta chronique sur le LNH.com, je disais tous les mardis. Ta dernière, justement, était sur le temps de la renommée. Philippe, un gros merci là, pour ce petit pit stop ce matin sur le podcast.
Anytime.
Merci, bye.
Bye-bye.
Merci, salut.
Bye, Philippe.
Mmh. Les gars, je vous amène sur un autre sujet complètement. Mais on reste en Pennsylvanie. On passe des Flyers aux Pingouins. Les Pingouins qui viennent de perdre leurs deux derniers matchs qui se retrouvent quand même avec une fiche de 8-4-2. Mais lentement, ces deux défaites-là, on se demande, est-ce que c'est le début de la chute au classement des Pingouins qu'on attendait tous depuis le début de l'année? Quand vous regardez un petit peu ça, vous voyez quoi pour les Pingouins là, pour la suite?
Ben les Pingouins, évidemment, ont connu un très, très, très bon départ. Est-ce qu'ils vont maintenir sur du long terme? C'est ça le grand défi du côté de Pittsburgh. Pour parler quand même régulièrement avec Maxime Talbot, Maxime a encore beaucoup d'antennes du côté de Pittsburgh. Il me répète constamment que la bonne humeur est invité à nouveau dans le vestiaire des Pingouins, que Dan Muse a changé un petit peu la philosophie de l'équipe. Là, il y a quelques blessés aussi. Tristan Jarry est blessé du côté des Pingouins. Jarry connaissait un bon départ avec Arthur Silov. Les deux se partageaient le travail.
Justin Brazeau qui
jouait le trio des géants. Là. Brazeau, Manta, Malkin, trois attaquants de 6-5 qui patinaient au sein du même trio. Mais là, Brazeau est blessé. Ricard Raquel est blessé. Tu ne parles pas de l'équipe avec une profondeur à l'infini non plus. Donc, ça peut te rattraper rapidement. Mais il y a une belle histoire avec Ben Kendall, qui est un jeune qui connaît une bonne saison recrue à 18 ans. Je parle d'un jeune, il y a des vieux aussi qui produisent. Crosby, c'est 17 points en 14 matchs, 9 buts. Il joue 19 minutes en moyenne à 38 ans. C'est quand même une solide machine d'hockey. Puis tu as Evgeny Malkin.
De nouveau Evgeny, la jeunesse.
Evgeny Malkin, pour l'avoir souvent dans mon pool d'hockey, le mois d'octobre, ça lui arrive souvent de partir en Lyon.
Ah, Brian Savage.
Mais c'est un Brian Savage qui s'en va au temple de la renommée, Evgeny Malkin.
De luxe.
Ouais. C'est 19 points en 14 matchs. Si les Pingouins peuvent avoir Crosby, Malkin qui roule et qui se dirige vers une saison de 80-90 points, cette équipe-là aurait des chances d'être dans le coup. Mais on va attendre avant de placer toutes nos œufs et de dire que c'est une équipe que tu peux encercler pour une participation aussi. Il y a encore quand même plusieurs points d'interrogation.
Oui, puis un gros point qui risque de changer, c'est l'avantage numérique. Là, on est à 32,4% depuis le début de la saison. Ça non plus, là, c'est pas soutenable. Surtout là, avec les quelques blessés. Au moins, bon, Crosby, Malkin sont encore là. Mais et en plus, parce que Jarry est blessé. Mais tu sais, on connaît Tristan Jarry. A tout le temps, deux, trois fois par année, va se subir une baisse de régime qui fait assez mal après. Mais il reste que, quand tu regardes ça, c'est les Pingouins. Est-ce que c'est réaliste pour eux de parler de séries éliminatoires? Je pense pas qu'on en est là. Mais un peu comme les Canadiens, on a été chercher ces gros points-là. Si tu voulais relancer un peu, si tu voulais relancer, pas la concession, mais ce groupe-là, avec un nouvel entraîneur-chef, Dan Muse, qui est un entraîneur recru en plus dans la Ligue nationale de hockey, tu ne pouvais pas demander mieux comme début de saison.
Oui, puis tu sais, les attentes sont au plancher du côté de Pittsburgh cette année. Là, je pense que ça peut aider là, tu sais, à motiver les troupes de 1. Là. Je pense pas que Crosby et Malkin étaient très heureux de voir les prédictions des experts qui envoyaient tous les Pingouins dans le fond de la cave. Donc, ça aussi, ça peut jouer. Là. Puis cet effet-là, est-ce qu'il peut se conserver pendant plusieurs mois. Là, l'effet de motivation, au début de la saison, peut-être t'as le couteau entre les dents, on va les faire mentir et tout ça, mais là, rendu au mois de novembre, décembre, est-ce que ça va tenir? Ça, c'est un autre point d'interrogation, mais j'ai l'impression que c'est des fiers compétiteurs. Là, Malkin, Crosby à la tête de cette équipe-là, je pense qu'il n'avait pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds comme ça. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est une autre question. Moi, j'y crois pas tellement, mais sait-on jamais, là, tu sais, un Malkin qui produit à ce rythme-là, si ça se poursuit, ben tous les espoirs sont permis, mais je me permets d'en douter pour le moment. On s'en reparlera peut-être rendu au mois de décembre. Là, peut-être une idée plus claire de ce qui se passe là-bas.
D'aspect motivation, tu sais, on décrivait les Pingouins, il faut quand même être franc, là, comme une équipe Gavin McKenna. Une équipe qui était pour se retrouver dans le boulier puis avoir un très haut pourcentage. Puis après 14 matchs, ils ont 18 points, surtout un différentiel de plus 9. Mais, Guillaume, tu disais, attendons de voir le mois de décembre. Je regarde la section métropolitaine. Les Devils au sommet à égalité avec les Pingouins, 18 points. Mais si on ferme la marche, 8e, c'est les Capitals de Washington à 13 points. Il y a 5 points d'écart entre le sommet et la cave. Donc, une mauvaise séquence, 3, 4, 5 revers d'affilée, tu peux passer du sommet pratiquement là, au dernier rang. Donc, ça,
on
c'est
est déjà
le
à deux défaites de suite du côté de Pittsburgh. Fait que ça, on n'est pas loin de la séquence vite. De 3-4.
Oui, puis on s'est écrasé contre les Maple Leafs en plus. Là. Je ne sais pas si ce match-là va laisser quelques traces parce que quoi, on menait 3-0, là, si je ne me trompe pas. Là.
Il faut bien que Toronto gagne une fois de temps en temps. Ils se remettaient d'une semaine difficile aussi avec la Série mondiale.
Oui. Wow. Ah oui. Ouais. Tu veux aller là? Tu veux parler
ben
de ça?
Non, mais c'est un petit clin d'œil, puis ça permet de saluer Josh Clipperton qui se doit encore. Ah, je sais pas comment Josh vit ça. Je sais pas s'il y a eu assez de t-shirts gris également pour survivre à cette série mondiale.
Il n'y en avait pas un bleu.
Mais gris varie de gris à bleu marin, noir, de bonnes couleurs quand tu commences à être un peu pesant. Donc, Mais le bon clip devrait s'en remettre.
C'était quoi le prochain sujet?
Je sais pas, mais en plus, en disant les couleurs pour des personnes un petit peu plus lourdes, je regarde le chandail de Nick et je suis dans la bonne palette. Et moi aussi en noir.
Il y aurait juste celui qui soit rayé de même, puis ça serait parfait, je passerais...
Le look du prisonnier.
15 livres de moins, là. Le look du prisonnier, exactement. Dans quel sens?
C'est quoi le prochain sujet?
Dalton, c'est comme ça, exactement, t'as raison. Hey, prochain sujet, en terminant l'émission, les gars, Mark Scheifele, on se réveille là, ce matin pour regarder le classement des marqueurs. Scheifele est au troisième rang, du classement des marqueurs de la Ligue nationale. Ben non, c'est pas vrai. Il est au deuxième rang à égalité avec Nathan MacKinnon, mais a joué moins de matchs. Il pourrait même être pas très loin, là, pas très loin de Connor McDavid au premier rang. Lui, il y en a 21. Scheifele, c'est un des deux joueurs qui ont été ignorés par l'équipe Canada l'an dernier à la confrontation des Quatre Nations avec Nick Suzuki, qui connaissent de solides débuts de saison. Faites-vous de la place à Mark Scheifele sur l'équipe olympique canadienne quand vous regardez ce début de saison-là, puis c'est ce qu'il peut apporter. Tout ça en se disant que, comme on en a parlé l'autre jour, Suzuki aussi, là, sa place, va falloir en parler là, assez rapidement. Là.
Ça va être difficile. Hier, d'ailleurs, Doug Armstrong et Don Sweeney étaient sur la galerie de presse du Centre Bell pour observer probablement un Nick Suzuki, un Samuel Montembeau, compagnie Travis Konecny aussi qui jouait de l'autre côté. Mm-hmm. Ça va être difficile de retrancher retrancher un gars comme Scheifele, un gars comme Suzuki. Je sais que c'est pas le sujet, mais ça me fait penser, hier, Nick Suzuki, en fin de match, bloque un tir avec son patin. Martin Saint-Louis a dit, c'est un jeu, c'est avec un joueur comme ça, un jeu comme ça, que tu gagnes des championnats. Je pense que c'est un message assez clair. Et à ce moment-là, Doug Armstrong et Don Sweeney étaient toujours sur la galerie de presse, donc on peut prendre ça en note, ce dévouement-là du capitaine. Mais pour revenir à Scheifele et Suzuki, c'est certain que oui, tu peux leur faire une place. Scheifele est dominant offensivement. Après ça, on connaît un peu la manière de penser d'Hockey Canada. On veut des joueurs de rôle. On a beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer, qui sont capables de produire offensivement. Est-ce qu'il y a de la place pour Scheifele sur le top 6? C'est la question à laquelle ils vont devoir répondre. Mais tu sais, on pourrait tasser un joueur comme Sam Bennett, un joueur comme Travis Konecny, mais... Est-ce que Scheifele t'amène aussi peut-être l'élément papier sablé qu'un Bennett amène? Est-ce que l'élément plus défensif peut-être qu'un Konecny peut amener, qu'un Suzuki peut amener? Tu sais, moi, oui, si tu regardes les points, il y a sa place sur cette équipe-là, mais si on se fie à ce que la manière de penser d'Hockey Canada dans les dernières années, dans tous les championnats à peu près, il y a toujours cette question-là de on remplit-tu la formation de talent pur ou est-ce qu'on y va un peu de talent puis des joueurs de rôle qui sont tout aussi talentueux, là, mais qui amènent un élément différent. C'est vraiment ce qui pourrait jouer contre un gars comme Scheifele, à mon avis.
Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de doute, il va y avoir un mélange. Ce ne sera pas uniquement du talent brut. Suzuki, une de ses grandes forces, tu sais, à Montréal, on le voit très peu en infériorité numérique parce qu'on veut lui donner une pause. Là. Il est déjà à 20 minutes pratiquement de temps de jeu comme attaquant. Mais pour l'équipe canadienne, Nick Suzuki pourrait très bien jouer en désavantage numérique, pourrait jouer au centre d'un quatrième trio, ralentir les gros trios de l'équipe adverse, tu pourrais lui confier des missions défensives, il serait capable de bien le faire. Je regardais le temps de jeu de Mark Scheifele. C'est pas quelqu'un qui joue en désavantage numérique à Winnipeg. Là, il y a à peine 10 minutes depuis le début de la saison. Scheifele, par contre, son billet pour Milan est peut-être étroitement relié à celui de Mark Stone. Si Mark Stone est encore blessé, si Mark Stone a du retard, Scheifele, tu peux lui demander, je crois, de jouer à l'aile sans trop de problèmes. Il n'est pas aussi bon, selon moi, que Mark Stone défensivement. Stone, c'est un gars qui vole beaucoup de rondelles, qui est très bon pour générer des revirements. Mais si tu veux un gars quand même imposant physiquement, Scheifele, c'est quoi? C'est 6 et 4 environ. Pratiquement la carrure d'un Mark Stone pourrait peut-être venir remplacer l'ailier des Golden Knights pour l'équipe canadienne.
Mais il a aussi été un peu comme Suzuki, on le sait, parce qu'on le voit à l'œuvre, on sait à quel point il est bon défensivement. Scheifele, on le voit un peu moins, mais je pense qu'il y a quand même des aptitudes défensives qui sont pas mises de l'avant avec les Jets.
Mais c'est un joueur très intelligent en partant.
C'est ça qui pourrait ressortir si tu le mets dans un cadre justement de troisième, quatrième trio avec l'équipe Canada. Et on a parlé de qui pourrait peut-être débarquer. Moi, Anthony Cirelli, c'est un joueur que je pourrais voir être retranché pour un des deux, Suzuki ou Scheifele. Le problème, c'est que c'est John Cooper, l'entraîneur-chef. Puis, c'est un entraîneur, ça aime prendre des joueurs que ça connaît très bien. Puis c'est le cas dans le cas de Cirelli, dans le cas de Brendan Hagel, qui était peut-être moins haut sur notre liste de l'année dernière.
Puis aux Quatre Nations, Cooper a fait appel à Cirelli puis à Hagel dans des missions très, très importantes. Fait que tu sais, on sent qu'il y a un certain, comme tu disais, le lien de confiance est très fort. Est-ce qu'on va être capable de faire une croix là-dessus? Puis tu sais, Julien Brisebois est aussi dans le assistant directeur général. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent en faveur des joueurs du Lightning. Mais à un moment donné, si tu veux bâtir l'équipe, la meilleure équipe au moment du départ pour les Olympiques, ben, on s'en reparlera peut-être rendu au mois de janvier, là, comment Suzuki va poursuivre cette saison-là, mais c'est certain qu'un gars comme Cirelli pourrait sauter. On regarde vers Brad Marchand aussi. On sait que c'est un joueur des grandes occasions, il l'a prouvé en séries éliminatoires, mais est-ce qu'on va y aller aussi pour un autre vétéran un peu plus âgé ou on va faire de la place à quelqu'un de plus jeune? Tu sais, on parle de Scheifele qui connaît un excellent début de saison. McLean Celebrini est aussi parmi les joueurs dominants. Fait que, tu sais, il y a plusieurs joueurs qui s'invitent dans la conversation. Je pense que c'est positif. Ça rend les décisions un peu plus difficiles. Mais toutes sortes de possibilités. Je pense qu'on va avoir le temps de s'en reparler. On est quand même le 5 novembre. Il reste beaucoup de temps là, pour prendre des décisions importantes.
Oui, on va avoir d'autres conversations là-dessus sur le balado. Les gars, merci d'avoir été là ce matin avec moi, surtout JF là, qui a parti sa génératrice Internet pour pouvoir être sur un podcast.
Mais Nick, je pense qu'on a réussi à lui donner un petit sourire ce matin.
Demi-sourire.
Le problème, c'est que... C'est rare que Chauma n'a pas de sourire. Seulement, c'est moi qui grogne.
Oui, mais... En même temps, il vient de réussir à partager son Internet de cellulaire avec son téléphone. Il y a une belle progression.
Tu vas y enlever le sourire.
Il y a une belle progression pour notre ami Chaumont ce matin dans ce cas-là au niveau technologique.
Vous me surnommez souvent l'analphabète numérique.
C'est ça.
Mais je connais un collègue aussi qui porte la moustache, qui a un micro rouge. Qui avait voyagé à Boston il n'y a pas si longtemps, a fait une entrevue avec un espoir pour finalement s'apercevoir qu'il n'y avait rien enregistré.
Donc, non, j'ai enregistré, mais le son, on n'entend rien.
Ça veut dire que tu n'as quasiment rien enregistré. T'sais, si tu enregistres, mais tu n'as pas de son, ça ne te sert pas à grand-chose d'enregistrer. On entend tes questions. Ce n'est pas des questions qu'on veut. Tu veux les réponses du joueur.
Ouais, c'est ça.
C'est pas ta question que tu vas citer dans ton texte, Guillaume.
Ben, écoute, ça se fait. Ça se fait. Il y a des collègues qui ont déjà cité.
Il y a des collègues qui sont devenus pratiquement des artistes en la matière.
Il y en a deux, trois qui ont déjà utilisé la phrase. Ah, il m'aurait dit ça. Puis tu le mets dans le papier. C'est comme ça. C'est arrivé à quelques reprises. On nommera pas de nom, mais peut-être plus avant l'arrivée des enregistreurs et tout ça. Mais fut un temps.
Mais moi, si vous voulez que je recommence à sourire, je vais raccrocher bientôt. Puis je me promets de téléphoner. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que
on plaint la personne qui va répondre au téléphone.
Non, exactement.
Ouais. Puis ma blonde Fanny me dit qu'en vieillissant, je deviens de plus en plus bête pour des situations identiques. Donc, je vais essayer d'être quand même souriant.
Ah, écoute, à un moment donné, tu seras aussi sympathique que l'ami Lepage qui est avec nous. D'ailleurs, Guillaume, tu nous signes un texte sur Cole Hudson ce matin, c'est sur le site web de
lnh.com. C'est sur le site.
Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres sur le site, les gars? Je vous prends-tu des
Toronto. Toronto, temps de la relève.
C'est vrai,
Jeff,
tu t'en vas à Toronto, toi, là.
Ouais, ouais. Puis, demain.
Je prends la relève de GF sur le Canadien pendant son absence. Bon. Je pense qu'on va se voir au Centre Bell, Nick.
On se voit au Centre Bell samedi, toi et moi. On va pouvoir parler de tout ça.
Manger des hot dogs.
Vous pourrez lire dans les prochains jours Patrice Bergeron qui décrit Zeno Chara. Donc, intéressant d'avoir l'œil de Bergeron. Pour parler surtout de la. Tu parlais de bébite tantôt, là, mais de l'être humain derrière le joueur de hockey qui, pour s'entraîner l'été, recréait des étapes du Tour de France. Donc, à 6 et 9, 250, 260 livres sur son vélo pour 200, 300 kilomètres, parfois en montagne. Ouais. Peut-être pour ça aussi que Chara a réussi à rentrer au temple de la Renée du hockey.
Tandis que pour toi et moi, Jeff, Tour de France, c'est ma tante France, là, autour de laquelle on fait des tours. Ça ressemble plus à ça, l'entraînement de haut niveau. Ton texte avec Patrice Bergeron, ça sort demain matin, jeudi. Hein?
Exactement.
Bon, parfait, les gens vont pouvoir lire ça. Guillaume, je te laisse partir, tu t'en vas au centre d'entraînement des Canadiens. Les gens vont pouvoir lire ton résumé de tout ça sur le site web. Et comme on disait, pour le reste de la semaine, on va être ensemble samedi pour l'Utah. Les gars, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui au balado. Merci à Philippe Boucher.
Ça fait plaisir.
Merci à Philippe Boucher qui est venu faire un petit tour aussi plus tôt. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.